me kese pastil.
Me kese pastil.
Oh, me kese kese pas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 19 mai. Et oui, on va tenter de faire le journalisme sans brider les compétences intellectuelles des auditeurs. Chers vous, chers toutes, n'oubliez pas d'aller, si vous le souhaitez, pianoter aussi sur internet pour lire des compléments d'information à ce que vous entendez ici. Alors, les infos qu'on a choisi de vous dire cette semaine, on va parler de pas mal de choses assez variées, hein. L'interdiction des produits alimentaires à base de CBD, des perquisitions qui ont lieu dans les locaux de l'entreprise Atosca dans le dossier du chantier de l'A69, les prises de position face aux prises de position aussi de Bolloré, notamment dans le milieu du cinéma avec le Festival de Cannes qui se tient en ce moment. On va parler des thérapies de conversion et de leur appréhension par notamment la Commission européenne. On va parler de la révolte populaire en Bolivie, et aussi et encore des nouvelles de la flottille pour Gaza, enfin une des flottilles pour Gaza, qui vient de tenter à nouveau de briser le blocus militaire à Gaza. C'est donc la troisième fois de cette année qu'Israël intercepte une nouvelle flottille pour Gaza. Ça s'est passé là pendant la nuit, c'est dans les eaux au large de Chypre que les forces de sécurité israéliennes ont arraisonné. Donc c'était lundi 18 mai, la date officielle. Une partie donc de cette nouvelle flottille qui prenait la direction de l'enclave palestinienne. Une flottille d'une cinquantaine de bateaux qui est partie de la Turquie. Le gouvernement turc qui d'ailleurs lui dénonce un acte de piraterie, puisque le gouvernement turc se positionne depuis longtemps en faveur plutôt de la libération de Gaza. Donc la marine israélienne a intercepté hier à l'ouest de l'île de Chypre une vingtaine d'embarcations de la flottille Global Sumud, qui faisait une cinquantaine de bateaux au total. Elle est partie jeudi 14 mai de Turquie, elle prenait donc la direction de Gaza. Les organisateurs ont indiqué qu'au moins 15 navires avaient été saisis par l'armée de l'État hébreu, à savoir en plus qu'on peut lire sur les réseaux sociaux avant les interceptions ou pendant, souvent l'armée prend l'équipage à bord, hein, ils arrivent avec leur vedette rapide, des espèces de Zodiac surarmés, ils embarquent tout le monde, mais les bateaux souvent ils les sabotent et ils les laissent en mer à la dérive, leur prédisant donc certainement un échouage dans les jours qui viennent. Parmi les militants qui ont été embarqués, on peut noter 15 citoyens irlandais, dont la sœur de la présidente d'Irlande. Donc la présidente, c'est Catherine Connolly, et il y avait sa sœur Margaret Connolly qui était à bord. C'est la troisième tentative, je vous le disais, en un an de ce type de flottille, hein, pour briser donc le blocus israélien imposé à Gaza. Gaza ravagée par la guerre est confrontée à de graves pénuries depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. N'en déplaise à ce que disent les autorités israéliennes, qui elles disent que l'aide humanitaire arrive à flot dans Gaza. Enfin, les quelques images de champs de ruines et de témoignages sur place laissent un petit peu quand même le doute sur la réalité de cette aide humanitaire. Ce conflit, on le rappelle, est une conséquence des massacres commis par l'organisation islamiste palestinienne, donc le Hamas, le 7 octobre 2023. Sur des images partagées en direct de cette interception, on voit les militants jeter leur téléphone portable à la mer pour éviter, j'imagine, que soit saisie toute information compromettante. En même temps, donc, que les forces armées israéliennes les abordent, armes au poing, avec en général les gens des bateaux qui sont préparés, hein, qui sont plutôt sur l'interception non violente, donc ils ont leur gilet de sauvetage, les mains sur la tête, et font ce qu'on leur crie dans le mégaphone. Selon Ynet News, les militants arrêtés au cours de l'opération ont été transférés sur un navire qualifié par les autorités israéliennes de prison flottante, donc un navire plus gros sur lequel les personnes sont débarquées, qui les transférera ensuite dans la ville de Ashdod. Du côté donc, du gouvernement turc, on a fermement critiqué cette opération israélienne. Nous condamnons l'intervention des forces israéliennes contre le Global Flotilla dans les eaux internationales, rappelle le porte-parole du gouvernement turc. Il s'agit là donc d'un nouvel acte de piraterie. C'est le ministère turc des Affaires étrangères qui s'est fendu de ce communiqué. A noter aussi que le gouvernement espagnol a lui aussi condamné cette interception. Et bien dans le même temps, un rapport de l'ONU revient aussi sur cette qualification de génocide à Gaza. Et l'ONU exige justement qu'Israël empêche un génocide à Gaza. C'est en tout cas ce que dit le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc dans les pages de ce rapport, les actions menées par Israël à Gaza depuis le début de la guerre, donc le 7 octobre 2023, constituent des violations flagrantes du droit international, s'apparentant parfois même à des crimes de guerre et autres atrocités. Ce sont donc les Nations Unies qui exigeaient hier, donc le lundi 18 mai, qu'Israël prenne toutes les mesures possibles pour empêcher des actes de génocide à Gaza, dénonçant des signes de nettoyage ethnique observés dans la région ainsi qu'en Cisjordanie. Donc un nouveau rapport dans lequel le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme déclare que les actions menées par Israël dans la bande de Gaza depuis le début de cette guerre constituent des violations flagrantes du droit international. Et je vous le disais, ils utilisent le mot « crime de guerre et autres atrocités ». C'est la première fois que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se prononce sur la situation de la bande de Gaza. En septembre 2025, il y avait déjà eu une commission de l'ONU qui accusait les dirigeants israéliens d'avoir incité à commettre un génocide. Dès mars 2024, par ailleurs, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, à savoir Francesca Albanese, présentait, elle, une étude qui attestait de plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza. Le rapport qui vient donc d'être publié hier concerne la période donc du 7 octobre 2023 jusqu'à mai 2025, et il a noté que ce rapport condamne aussi d'ailleurs les violations graves commises par les groupes armés palestiniens, donc notamment le Hamas, mais pas que, pendant et après l'attaque initiale. Il a rappelé que l'attaque du Hamas a causé la mort de 1221 personnes du côté israélien, pour la plupart des civils. C'est un décompte de l'AFP qui est basé sur des données officielles. Et si on regarde du côté de la bande de Gaza, donc du côté des morts palestiniennes, ce sont plus de 72 700 Palestiniens qui ont été tués pendant cette campagne militaire de représailles de la part d'Israël. Et ce sont les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU.
Par les rebelles, tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
On part maintenant en Bolivie, où ce ne sont pas des gilets jaunes, mais des ponchos rouges qui forment cette révolte populaire sur fond de crise économique, et 6 mois seulement après l'arrivée du nouveau président, situé à la droite plutôt extrême de l'échiquier politique. Aujourd'hui, la capitale La Paz est bloquée par les manifestants. Depuis 15 jours, déjà, les accès sont bloqués avec des barrages sur les grands axes routiers, ce qui empêche l'acheminement de nombreuses vivres. Et à noter aussi que la ville de El Alto est également bloquée, El Alto qui est un peu l'épicentre de cette contestation. Donc, je vous le disais, pas de circulation de vivres ni de carburant depuis 15 jours, donc une économie fortement ralentie, une forme presque, ce n'est pas encore une grève générale, mais certains la souhaiteraient. 70 barrages étaient en place la fin de semaine dernière. Et El Alto, cette ville, est un haut lieu des luttes populaires et indigènes en Bolivie, puisqu'il est aussi question effectivement de populations indigènes dans cette révolte qui mélange pas mal de protestations, mais aussi la politique, on va dire, classiste et raciste du nouveau président. En tout cas, les manifestations ont été émaillées de violence hier dans la capitale La Paz. Le parquet a ordonné l'arrestation du leader du principal syndicat ouvrier du pays. Il s'appelle Mario Argoyo. Il est notamment accusé d'incitation publique à commettre des délits et carrément de terrorisme. Les manifestants, armés parfois d'explosifs artisanaux, de bâtons ou de pierres, ont tenté de rallier la place Murillo, où se trouve le palais présidentiel, dans des images qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ont aussi été constatées par l'AFP sur place. On voit des barrages de police avec des barrières en ferraille poussées par les manifestants. Des centaines de policiers anti-émeutes ont repoussé donc ces assauts à coups de gaz lacrymogène. Ça fait à peine 6 mois qu'il est arrivé au pouvoir, et donc le président Paz, dirigeant de centre-droit, c'est pour ce qui est de la politique locale, mais La politique est quand même bien à droite si on regarde les faits. Il fait face à une pression croissante de protestation de la part de paysans, d'ouvriers, mais aussi des mineurs ou des enseignants. Tous dénoncent la pire crise économique qu'ait connue la Bolivie depuis 4 décennies. Donc les raisons d'appeler au départ de Rodrigo Paz ne manquent pas. En 6 mois de présence à la tête du pays, le gouvernement et les patrons, le patronat, ont montré quel était le programme. Spoliation des terres paysannes et autochtones, pillage des ressources naturelles, privatisation d'entreprises publiques, l'endettement du pays et la réduction des impôts pour les grands patrons. Bref, une politique néolibérale. Sans grande surprise, vu, je vous le disais, la couleur politique et le parcours du chef de l'État. Donc lorsque le 16 mai, les travailleurs, paysans, enseignants et comités de quartier sont descendus dans la rue en s'organisant pour s'opposer aux coupes budgétaires dans la santé ou dans l'éducation, mais aussi à l'expropriation des terres, il y a des nouvelles lois qui sont passées qui favorisent, on va dire, le phénomène de latifundisation, c'est-à-dire les grands propriétaires qui récupèrent les plus petits. Donc ça, c'était parmi les causes de descendre dans la rue, mais aussi ils réclamaient l'indexation des salaires sur l'inflation. À ces prises de la rue, donc le gouvernement a répondu par une répression militaire et policière brutale qui a fait quand même 4 morts. Ces manifestations interviennent d'ailleurs aussi alors que le pouvoir bolivien est accusé d'avoir préparé avec le soutien des États-Unis une opération contre l'ancien président de gauche radical Evo Morales, opération qui a mobilisé plusieurs policiers et militaires dans un projet d'enlèvement ou de meurtre, avec Trump qui s'en félicitait à l'antenne. Et donc là, ce qui a été l'étincelle aussi, c'est l'annonce récente de la suppression des subventions pour le carburant. Ensuite, ils font aussi comme le reste de la planète à une hausse des prix des carburants. Et récente suppression de la subvention, donc ce qui veut dire le prix à la pompe qui augmente d'un coup. C'est d'ailleurs un peu la seule cause que j'ai pu trouver mise en place dans les journaux des médias, dans les flash infos là, qui sont passés sur nos chaînes récemment. C'est un petit peu réducteur, vous l'aurez compris. Ça rappelle aussi le traitement médiatique qui a été fait pour les gilets jaunes, de dépolitiser cette grande... c'est ce qu'on appelle une insurrection populaire, pour le moment en tout cas. Ça y ressemble. Et dans le mot d'ordre, en tout cas, de la plupart des manifestants, ce qui ressemble aussi beaucoup à ce qu'on entendait dans le mouvement des gilets jaunes, c'est le départ du président, la chute du gouvernement, donc qui est réclamée par l'ensemble des manifestants aujourd'hui. Donc je vous le disais, ce ne sont pas des gilets jaunes, mais des ponchos rouges, ils ont des chasubles rouges qui font office un petit peu d'uniforme. Quand on regarde notamment les images d'affrontements avec la police, on voit une marée rouge qui essaie d'enfoncer des hommes plutôt casqués en noir en face. Ils mènent donc d'immenses rébellions populaires contre ce gouvernement de Rodrigo Paz. Dans ces vidéos, on voit la police qui recule face à des manifestants armés de fouets, de bâtons ou de pierres. Ça, c'est dans la ville de El Alto. Et je vous le disais, les blocages continuent et les grèves se multiplient à travers le pays. Les ponchos rouges, historiquement, sont un mouvement aymara indigène et paysan de Bolivie qui a été connu pour son rôle révolutionnaire dans les soulèvements populaires depuis la guerre du gaz qui a été datée en 2003. Aujourd'hui, donc, ils sont de retour avec ces chasubles au cœur de la scène politique, menant des manifestations contre, je vous le disais, la crise économique, la flambée des prix de l'essence, et le gouvernement passe dans son ensemble. Cette mobilisation est donc qualifiée déjà par beaucoup de plus importante vague de contestation sociale en Bolivie depuis 2019. Et dans les autres développements récents, plusieurs aéroports sont aussi d'ailleurs occupés par la population. Voilà des infos dénichées à droite et à gauche. Et si vous voulez lire par exemple un communiqué émanant de forces sur place en Bolivie, donc forces plutôt d'extrême gauche, elles sont relayées sur le site du média Révolution Permanente, avec un éclairage donc très axé lutte des classes sur la situation. On va parler maintenant des thérapies de conversion et de leur traitement par la Commission européenne. Malgré le soutien de plus de 1,2 million de citoyens européens, la Commission européenne vient de refuser d'interdire ces fameuses thérapies de conversion dans l'Union européenne. Cette décision relance donc parallèlement les critiques sur les limites démocratiques justement que sont possibles au niveau européen par l'initiative citoyenne européenne, ICE, une IS ou ICE, qui est souvent accusée de créer des attentes sans garantir de résultats concrets. Donc on va développer un petit peu avec cet article qui a été écrit dans les colonnes de Alter Midi, ces deux axes. Donc on va parler d'abord des thérapies de conversion que la Commission européenne choisit donc de ne pas, en tout cas de ne pas proposer d'interdiction aux pays membres. Malgré, donc, je vous le disais, cette mobilisation citoyenne historique, alors Bruxelles reconnaît malgré tout le caractère honteux et inacceptable de ces pratiques qui visent donc les personnes appartenant à la communauté LGBTQI+. Conversion pour essayer de convertir donc des gens, par exemple homosexuels, à l'hétérosexualité. L'exécutif européen estime en tout cas avec cette décision, cette non-décision plutôt, de ne pas disposer des compétences juridiques nécessaires pour pouvoir directement légiférer. Cette décision suscite colère et frustration chez les militants, mais je vous le disais aussi un débat donc plus large sur finalement les limites démocratiques de l'Union européenne. Alors, il faut remonter au mercredi 13 mai, c'est la commissaire européenne chargée de l'égalité, elle s'appelle Hadja Lahbib, elle présentait donc la réponse officielle de la Commission à cette initiative citoyenne européenne. C'est une procédure qui a été créée en 2012 pour renforcer la participation démocratique dans l'Union européenne. Donc l'initiative citoyenne européenne, comme son nom l'indique, permet aux citoyens de tous les pays de l'Union européenne de demander à la Commission de proposer de légiférer sur un sujet dès lors qu'on arrive à atteindre 1 million de signatures dans au moins 7 États membres. Eh bien, l'initiative proposée sur ces fameuses thérapies de conversion avait largement dépassé le seuil à 1,2 million de soutiens enregistrés en mai 2025. Plus de cela, un large appui politique et médiatique. Donc tout était plutôt fait pour que le Parlement européen s'en saisisse. D'ailleurs, ce Parlement avait lui-même adopté le 29 avril dernier une résolution qui appelait l'Union à interdire les pratiques. Alors, un petit mot sur ces thérapies quand même. Elles sont dénoncées depuis des années par les associations de défense des droits humains. Et dans thérapie, on regroupe toutes les méthodes qui prétendent modifier l'orientation sexuelle ou bien l'identité de genre de personnes concernées, donc dans le spectre LGBTQI et plus. Ces thérapies peuvent prendre parfois la forme de stages, des pseudo-consultations médicales, des séances religieuses, d'exorcisme, ou encore même, sinon, des violences physiques et psychologiques. Plusieurs organisations internationales, dont l'ONU d'ailleurs, les assimilent à des traitements dégradants. Donc, face à cette situation et à la mobilisation citoyenne, la Commission européenne a décidé donc, elle a promis une recommandation aux États membres d'ici 2027. Une recommandation donc pour les encourager à interdire ces pratiques. Mais vous le comprenez, cette mesure ne sera pas juridiquement contraignante, aucune obligation, donc aucune sanction dans le cas où les États membres ne s'y plieraient pas. À ce jour, on peut noter que seuls 8 pays de l'Union européenne, d'ailleurs, ont déjà adopté une interdiction complète, en France, en Belgique, Chypre, l'Allemagne, Malte, le Portugal, l'Espagne et la Grèce. Il manque quand même pas mal de gros pays. Donc l'Europe, la Commission européenne vient de refuser ce refus de légiférer par des aspects juridiques et notamment les limites des traités européens. En effet, toutes les questions qui sont liées à la santé, au droit pénal ou à l'organisation des systèmes sociaux restent largement de la compétence des États membres. La Commission craint donc d'empiéter sur ses prérogatives nationales. Donc c'est un problème structurel qui vient montrer cette décision en demi-teinte. Le collectif Against Conversion Therapy, donc contre les thérapies de conversion, qui est à l'origine de cette initiative citoyenne, a dénoncé une réponse pas à la hauteur de l'urgence. On peut citer notamment l'eurodéputée socialiste Emma Rafovic, qui de son côté a fustigé un immobilisme coupable, qui vient donc nier la mobilisation de plus de 1,2 million d'Européens. Et donc je vous le disais, au-delà de ce sujet grave, des thérapies de conversion, l'affaire remet en lumière les faiblesses structurelles de cette initiative citoyenne européenne. Lors de sa création, elle était présentée comme un outil majeur de démocratie participative. Un peu comme chez nous, il y a pas mal de consultations démocratiques qui sont faites, notamment, c'est ce que promettait Emmanuel Macron, mais d'ailleurs, ça ne reste que des cahiers de doléances qui ne sont pas forcément appliqués. Cette fameuse ICE ne permet pas d'imposer une loi à la Commission européenne. Et quand l'initiative atteint le seuil requis, donc d'un million de signatures, l'exécutif européen reste toujours libre de décider s'il souhaite ou non proposer un texte législatif. En gros, la seule obligation qu'il a, c'est de devoir examiner la demande et d'y répondre officiellement. Mais ils peuvent répondre merde, en gros. Depuis 2012, y en a eu d'autres, des initiatives citoyennes qui ont mobilisé donc toujours des millions d'Européens, ont toutes débouché sur des réponses limitées ou bien symboliques. Donc beaucoup de militants dénoncent un mécanisme qui donne l'impression d'une participation démocratique, mais sans réel pouvoir décisionnaire. Et une critique est d'autant plus forte que pour collecter ces 1 million de signatures dans plusieurs pays, c'est un travail considérable d'information et de militantisme, puisque chaque État membre doit déjà atteindre un seuil minimal de soutien proportionnel à sa population pour ouvrir le truc. Par exemple, en France, c'est 56 000 signatures nécessaires pour que le pays soit seulement pris en compte.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Allez, on reste dans le recueil de signatures avec cette pétition qui fait des vagues pendant le festival de Cannes. Enfin, cette lettre ouverte. 651 nouvelles signatures ont été récoltées hier par le collectif Zappé Bolloré. C'est en réaction à l'annonce par le président de Canal+, Maxime Saadé, de ne plus travailler avec ceux qui avaient déjà signé la tribune, donc les signataires de la tribune qui critiquaient la mainmise de Vincent Bolloré sur le cinéma français. Donc il y a eu une tribune qui a été faite avant le festival de Cannes. Et suite à cette tribune, il a annoncé que bah justement ces personnes-là ne seraient pas bienvenues sur les plateaux, etc. pour faire la promotion. Suite à cette annonce, donc une nouvelle vague de gens ont signé. Parmi les nouveaux signataires, on peut citer par exemple le cinéaste Robin Campillo, qui avait réalisé 120 battements par minute, donc des gros noms, hein, puisqu'ils ont eu des palmes à Cannes. Ça porte donc au final à plus de 1200 le nombre de professionnels du cinéma qui ont signé cette tribune, publiée mardi dans Libération, une tribune donc pour dénoncer l'emprise de l'extrême droite sur le cinéma français, en visant bien sûr Vincent Bolloré, l'actionnaire de référence de Canal+. Notre tribune en réaction au rachat de UGC n'a jamais désigné que ce dernier, sans incriminer les équipes de Canal+, d'ailleurs, explique Zappé Bolloré dans ce communiqué. La menace qui a donc été proférée par Maxime Saadé confirme cependant nos craintes, continue le collectif. Et donc, ce lundi au Festival de Cannes, plusieurs professionnels se sont émus d'une potentielle mise à l'écart de centaines d'acteurs, cinéastes, techniciens, pour avoir simplement partagé leurs inquiétudes face à l'influence de Bolloré sur le cinéma. Et donc, on a vu des images, là, à chaque visionnage en salle pendant le Festival de Cannes, au moment des logos, là, au début ou à la fin des films, quand le logo de Canal+ apparaît, c'est maintenant des huées et des sifflets qui accompagnent, ou alors un gros silence glacial qui accompagne le logo. Il y a même une petite séance virale où quelqu'un, dans le silence, se paye une grosse insulte contre Canal+. Donc voilà, à voir un petit peu, ça bouge dans tous les sens entre ça et l'affaire de l'éviction des éditions Grasset en ce moment dans le milieu de la culture avec Monsieur Bolloré. En tout cas, ça grince, à voir si celui-ci a une stratégie ou s'il se fait un petit peu dépasser par les événements.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On descend à Montpellier, un rassemblement qui a eu lieu mardi dernier de plusieurs dizaines d'étudiants qui se sont rassemblés devant le rectorat de Montpellier pour défendre leurs droits. Et notamment, ils s'opposent à un projet de décret qui pourrait supprimer la possibilité pour les universités d'exonérer les étudiants extra-communautaires de frais d'inscription majorés. En gros, les étudiants extra-communautaires doivent payer des frais d'inscription en plus. C'est ce qui arriverait si ce décret était acté. Le même jour, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche émettait d'ailleurs un avis largement défavorable à ce même décret. C'était donc le mardi 12 mai, nous apprend ce journaliste qui écrit pour le magazine Le Point, avec un G à la fin, donc qui s'intéresse à l'actualité du côté de Montpellier, mais aussi dans les Cévennes, que plusieurs dizaines d'étudiants se rassemblaient devant le rectorat de Montpellier contre un projet de décret du gouvernement. Instauré en 2019 par le plan Bienvenue en France, des frais de scolarité pouvaient atteindre jusqu'à 2895 euros pour la licence et presque 4000, hein, 3941 euros en master. Ce sont donc des frais d'inscription qui sont quasiment 16 fois plus chers que pour des étudiants européens. Quand on dit extra-communautaire, ça veut dire extérieur à la communauté européenne. Donc un gros frein aux étudiants étrangers. Jusqu'ici, les établissements pouvaient choisir de ne pas appliquer justement ces frais extra-communautaires. Et par exemple, l'Université de Montpellier ou l'Université Paul-Valéry avaient fait le choix de ne pas appliquer donc ces frais, donc continuer en gros à avoir une politique d'accueil des étudiants extra-communautaires. Ce projet de décret gouvernemental ne leur permettrait plus d'avoir ce choix et mettrait fin à cette liberté. La mobilisation s'inscrit donc dans un mouvement national, à l'appel notamment d'une intersyndicale de l'enseignement supérieur. Des rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes, notamment Paris, devant le ministère, ou devant pas mal de rectorats dans les régions de France. Montpellier, c'était déjà la deuxième fois qu'un rassemblement avait lieu en 2 semaines, puisque le 30 avril déjà, pareil, plusieurs dizaines de personnes s'étaient réunies devant la préfecture de l'Hérault. La date donc, de ce mardi 12 mai n'était pas choisie au hasard, puisque le même jour, le CNESER, c'est le Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui est une instance réunissant représentants des personnels, des étudiants et des établissements, eh bien, devait se prononcer à Paris sur le texte. L'avis a été assez clair, 62 voix contre, 2 voix pour, 3 abstentions. Un verdict donc sans appel, mais là encore une fois, qui reste purement consultatif, à savoir pourquoi est-ce qu'on continue de faire des élections, donc sans conséquence sur l'avenir de ce projet de décret gouvernemental. Pour les étudiants étrangers, les conséquences, elles, malheureusement, sont déjà bien réelles. C'est ce qu'explique un militant au réseau Université Sans Frontières. Donc un réseau qui accueille les étudiants et donc avec des permanences dans lesquelles ils peuvent communiquer. Voici ce qu'il observe. Il y avait déjà la question de la suppression des APL pour les étudiants étrangers, les dossiers pour les titres de séjour en préfecture qui n'avancent pas, faute de moyens humains, et maintenant, donc, ce nouveau décret. On voit de plus en plus d'étudiants étrangers en panique. Ils nous demandent des contacts de psychologues. Ce stress est un facteur d'échec aux examens. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est un décret qui va viser les étudiants étrangers, pauvres, hein, parce que ceux qui viennent de pays plus riches ou qui ont des familles bien nanties, bah, pourront se payer les frais d'inscription. Donc c'est une manière de trier, de sélectionner l'immigration, encore une fois, par le vu des études. Les conséquences potentielles dépassent, selon lui, le seul plan financier, puisque beaucoup d'étudiants en licence 3 ou en master 1 viennent les voir en se demandant comment ils vont pouvoir payer. Et sans études, pas de situation régulière en France, et donc certains risquent de finir carrément en centre de rétention. C'est aussi pour ça qu'ils peinent d'ailleurs à mobiliser ces étudiants, certains par peur de la situation administrative dans laquelle ils sont, ont peur de se retrouver face à la police. Une autre militante qui milite au point levé inscrit cette nouvelle mesure dans un cadre plus large. Ce sont les services publics, dit-elle, qui payent les crédits de guerre de la loi de programmation militaire. Ces attaques contre les étudiants vont continuer. Nous devons nous coordonner pour préparer la rentrée avec un gros mouvement anti-impérialiste et anti-raciste. Les manifestants réclament donc le retrait du décret, l'abrogation de l'ensemble des frais différenciés et le rétablissement des aides sociales, par des APL ou des bourses, pour tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité. Des perquisitions ont eu lieu la semaine dernière chez Atosca, le maître d'œuvre dans le chantier de l'A69 qui est censé relier Toulouse et Castres. C'est le procureur de la République de Toulouse qui a annoncé mardi dernier avoir demandé des perquisitions, donc le lundi, dans les locaux de l'entreprise Atosca qui est le concessionnaire donc, de cette future autoroute. Une perquisition menée par une vingtaine de gendarmes et d'inspecteurs de l'environnement de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ont donc fouillé le siège social d'Atosca, ainsi qu'une base de vie du chantier, basée à Puy-Laurence, dans le Tarn. Ces perquisitions ont conduit à la saisie du matériel informatique, des supports numériques et des éléments utiles à l'enquête afin de préciser l'implication des différents intervenants sur ce chantier dans les dépassements constatés, précise le parquet. Les dépassements, je vais vous rappeler de quoi il s'agit. Et donc, ils ont permis, avec ces perquises, de pouvoir accéder notamment à des mails, des échanges, des courriers internes, etc. Des auditions devraient avoir lieu prochainement. Une opération qui fait suite à la plainte déposée le 10 décembre dernier donc par France Nature Environnement. Cette association environnementale dénonçait l'emprise d'au moins 86 hectares de terre en plus en dehors du périmètre légal du chantier, ce qui fait un dépassement de plus de 20% quand même de la surface par rapport à ce qui avait été autorisé initialement par les autorités. Donc des dépassements de surface, des chantiers qui ont des lignes et puis qui en fait vont beaucoup plus loin, donc ça va manger sur des terres agricoles ou des terres naturelles protégées. Déjà le 12 janvier, le juge des libertés et de la détention avait ordonné l'arrêt des travaux sur les 46 parcelles concernées, je vous en avais parlé. Ils avaient aussi demandé que Atosca libère toute occupation de ces parcelles sous 4 jours, avec des mesures compensatoires à exécuter dans un délai d'un mois, donc en gros de l'argent à payer chaque jour de retard, avec notamment une astreinte de 20 000 euros par jour. 4 mois plus tard, comme l'a documenté notamment le média Reporter, le parquet de Toulouse déplore pourtant la présence d'installations de chantier ou la poursuite d'activités de travaux publics au niveau des zones de dépassement. Donc clairement, ils n'ont eu rien à carrer des menaces. Et donc, eh bien, le parquet devrait exiger le paiement de l'astreinte, qui court, elle, toujours. Et ça commence quand même à faire des chiffres, hein, avec 20 000 euros par jour sur 4 mois. Voir si Atosca sera prêt à allonger ça. Visiblement, ils se croient au-dessus du droit. Peut-être qu'on les conforte dans d'autres sphères en leur disant « continuez, continuez, on vous couvre ». Donc c'est un petit bras de fer là qui est en train de se jouer. Les préfectures du Tarn et de Haute-Garonne, d'ailleurs de leur côté, avaient tenté d'éteindre cet incendie, hein, médiatique en tout cas, ce scandale. Ils avaient signé mi-avril un arrêté pour démarrer une consultation publique pour régulariser cette autorisation environnementale de l'autoroute, donc a posteriori. Leur objectif, bah, tenter de régulariser les débordements et tenter d'enterrer le dossier. L'enquête de justice en cours devrait quand même compliquer les choses, puisque c'est le collectif La Voie est libre qui s'oppose à ce projet de 69 qui s'en réjouit. Le matériel saisi va parler. Au-delà des innombrables infractions environnementales, c'est tout le système A69 entre barbouzerie, intimidation et copinage politique qui va être révélé. Et ben, on a hâte de lire un petit peu les échanges parce qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Et vu que certains pensaient agir en toute impunité, je pense qu'il y aura des petites pépites à vous diffuser prochainement. Puisqu'on est dans les questions environnementales et justement de notamment des énergies renouvelables, une petite brève là aussi relayée dans le média Reporter, où on y apprend que les centrales à charbon participent à la diminution de l'efficacité des installations photovoltaïques. En gros, le solaire est moins efficace à cause de la pollution au charbon. C'est ce qu'on appelle un joli contre-KEMS. En tout cas, c'est ce qu'affirme une nouvelle étude qui a été publiée dans Nature Sustainability. Plus de 140 000 installations photovoltaïques ont ainsi été scrutées. Ça a été combiné avec des données atmosphériques sur la pollution de l'air, puisque les aérosols présents dans l'air diffusent et absorbent la lumière du soleil, tout en réduisant la quantité de rayonnement qui peut atteindre les panneaux. Cette énergie produisait en 2023 5,8% d'énergie en moins que ce qu'elle aurait pu faire s'il n'y avait pas eu donc la pollution. Le principal auteur de cette étude, il s'appelle Rui Song, il a déclaré dans un communiqué que les développements parallèles du charbon et du solaire modifient l'environnement des radiations, ce qui nuit directement au rendement de la production d'énergie solaire. La pollution atmosphérique ne se contente pas de bloquer la lumière du soleil, elle modifie également la formation des nuages, ce qui peut réduire encore davantage la production d'énergie solaire. Le premier producteur au monde d'énergie solaire, c'est la Chine, voit ses centrales à charbon, situées à côté des panneaux, causer une perte de production donc de 29% environ de l'énergie solaire. C'est pas rien, ça chiffre. Pour le docteur Chen-Cheng Wang, qui est co-auteur de cette étude, les politiques doivent maintenant réorienter les subventions aux énergies fossiles en réduisant celles allouées au charbon pour coller avec les objectifs de développement durable. Et on termine avec cette nouvelle, les tisanes, huiles, pastilles, autres chocolats au CBD, a priori c'est fini. En tout cas, pour le moment, puisqu'à partir, ça a commencé vendredi dernier, le 15 mai, que le CBD, c'est l'abréviation de cannabidiol, cette substance qui est issue du chanvre, qui est vantée pour ses propriétés relaxantes et qui donc vient faire substitut pour le THC qui lui est interdit, eh bien le CBD va être interdit dans les produits alimentaires. Donc le CBD à fumer ou sous forme de liquide pour cigarettes électroniques, lui, il va rester autorisé, mais c'est toutes les variantes qui viennent de se prendre un gros stop là. C'est une interdiction qui a été dictée par la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation. Elle a choisi d'appliquer la réglementation européenne en la matière. Depuis 1997, le règlement européen Novel Food impose en effet aux producteurs d'aliments qui ne seraient pas traditionnellement consommés sur le continent, donc quand on importe par exemple des choses, eh bien il faut solliciter une autorisation à la DGAL avant de les proposer à la vente. Eh bien, cette autorisation, justement, les produits alimentaires contenant du CBD ne l'auraient pas encore obtenue. La DGAL, qui tolérait jusqu'ici ces produits, a annoncé mi-avril aux représentants de cette filière toute nouvelle qu'il n'y aurait désormais plus aucune tolérance. C'est ainsi plus de 2000 magasins qui commercialisent ces produits qui vont être affectés par cette interdiction. C'est ce que, d'ailleurs, cette interdiction est jugée aberrante par le représentant de l'Union des professionnels du CBD, qui s'appelle Paul McLean. Côté producteur, la Confédération paysanne déplore, elle, une menace directe sur la filière française, qui était jusqu'à présent en plein boom. Des centaines de producteurs, de paysans, de fermes diversifiées, de circuits, des commercialisations en cours d'installation, ainsi que des projets en circuit court se retrouvent aujourd'hui en danger, dénonce la Conf. Selon toujours ce syndicat, cette décision va dépasser le seul sujet du chanvre et serait révélatrice du phénomène d'industrialisation et de concentration de l'agriculture en cours. Des dérogations au règlement Novel Food, en effet, peuvent être déposées, mais elles sont coûteuses et elles exigent un dossier technique très lourd à constituer, ce qui favorise les industriels disposant de moyens financiers et juridiques importants. Donc effectivement, vous risquez de vous retrouver avec toujours ces produits à la vente, mais ceux issus de grosses filières mondiales ou européennes, avec donc de l'importation, ce qui va venir certainement mettre, couper le pied sous l'herbe. Non, comment est-ce qu'on dit couper l'herbe sous le pied, pardon, à toutes ces nouvelles productions locales et plus artisanales.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Allez, on termine là-dessus les amis, on se donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.